Chapitre 26. La résurrection. La nuit était très avancée lorsque l'esclave noire, après avoir organisé les préparatifs de son mariage à sa complète satisfaction, regagna la maison de sa maîtresse. La nuit d'hiver était froide, mais Afra s'enveloppa soigneusement et elle n'était pas d'humeur à se laisser inquiéter pendant la route. Puis le ciel parsemé d'étoiles semblait magnifique et les rayons argentés de la lune caressaient doucement les eaux murmurantes et limpides de la Meta Sudens. L'esclave, arrivée près de la fontaine, s'arrêta un moment et, après un instant de silence, elle éclata de rire, comme si, à la vue de cette belle fontaine, un souvenir joyeux revenait dans son esprit. Elle faisait le tour de la Meta Sudens pour reprendre son chemin, quand elle se sentit rudement saisie par le bras. « Si vous n'aviez pas ri, dit avec aigreur celui qui l'arrêtait au passage, je ne vous aurais pas reconnu. Mais on ne peut se méprendre à votre rire de hyène. Entendez-vous les animaux féroces de l'Afrique, vos parents, qui vous répondent de l'amphithéâtre, qui donc excitait votre hilarité ?»«
Vous ?
Comment, moi ? Je pensais à notre dernière entrevue dans cet endroit et à votre naïveté. » Que c'est bon à vous, Afra, de penser à moi, surtout quand je ne pensais pas à vous, mais à vos compatriotes enfermés là-bas dans ces cellules. Cessez vos propos impertinents et appelez les gens par leur propre nom. Je ne suis plus que pour quelques heures Afra l'esclave. Je serai Jubala, la femme d'Iphax, le chef des Archémores. Un homme très respectable, sans doute, s'il pouvait oublier un peu son jargon barbare. Mais ces quelques heures qui vous restent peuvent suffire à l'affaire dont je veux vous parler. Je pense que vous vous trompiez dans ce que vous me disiez tout à l'heure. N'est-ce pas vous qui vous êtes moqué de moi à notre dernière entrevue? Que sont devenues vos belles promesses données en échange de mon or plus précieux encore? Mon or sonnait l'or pur, je pense. Vos paroles se sont évanouies comme la poussière. Sans doute, ainsi que le dit un proverbe de ma nation. La poussière du bord du vêtement d'un sage vaut mieux que l'or contenu dans la ceinture d'un fou. Mais arrivons au but. Avez-vous vraiment cru au pouvoir de mes charmes ou de mes philtres? Sans doute. Voudriez-vous dire que c'était une imposture? Non, pas entièrement. Vous avez vu que nous nous sommes débarrassés de Fabius et que sa fille est en possession de sa fortune. C'était là un pas préliminaire d'une absolue nécessité. Quoi? Voulez-vous dire que vos incantations ont empoisonné le père? Demanda Corvinus, effrayé, en reculant de quelques pas. Cette idée était venue à propos à l'aide d'Afra. Elle produisait son effet, et, profitant de son avantage, l'esclave noir reprit. Et pourquoi pas? Il est si facile de se débarrasser ainsi d'une personne qui entrave votre route. Bonne nuit, répondit Corvinus effaré. Arrêtez un moment, répliqua l'esclave noir avec plus de clémence. Corvinus, je vous ai donné cette nuit-là deux avis qui valaient tout votre or. Vous avez agi contrairement au premier et vous n'avez pas suivi le second. Comment cela? Ne vous avais-je pas dit d'éviter de chasser ouvertement les chrétiens, mais de les prendre dans vos filets? Fulvus l'a fait, il a gagné quelque chose. Mais vous, qu'avez-vous gagné? Rien que la rage, la confusion et des coups. Alors mon premier avis était bon. Suivez donc le second. Quel est-il? Quand les dépouilles des chrétiens vous auront suffisamment enrichi, présentez-vous avec vos trésors à Fabiola. Jusqu'à présent, elle a froidement rejeté toutes les offres. Mais j'ai remarqué soigneusement une chose, c'est que tous les prétendants à sa main étaient des pauvres, des prodigues qui voulaient sa fortune pour réparer la leur. Celui qui désire gagner le prix si recherché doit se rappeler toujours que deux et deux font quatre. Me comprenez-vous? Trop bien, car où pourrais-je prendre les deux qui me sont utiles? Écoutez-moi, Corvinus, car c'est ici notre dernière entrevue et j'ai plutôt quelque amitié pour vous, car vous êtes ardent, sans scrupules, inflexible et implacable dans vos haines. Elle s'approcha tout près de lui et marmotta à son oreille. J'ai su par Eurotas, dont je peux tout apprendre, que Fulvius a en vue de splendides proies chrétiennes, une en particulier qui doit être magnifique. Suivez-moi de ce côté, dans l'ombre, et je vous dirai comment vous pouvez vous placer entre lui et son trésor. Laissez-lui accomplir le meurtre qui sera nécessaire, car il peut amener des ennuis, mais arrêtez-le ensuite et emparez-vous des dépouilles. Il agirait ainsi envers vous un de ces jours. » Elle lui parla quelques minutes encore d'une voix basse et animée, et enfin il brisa l'entretien en s'écriant « Excellent !» Quelle parole dans une telle bouche! Elle l'arrêta en le poussant brusquement et, lui montrant le bâtiment situé en face d'eux, lui dit « Silence! Regardez là !» Le tableau avait bien changé, les choses étaient bien différentes depuis la dernière entrevue de ces deux esprits mauvais. À leur dernier rendez-vous dans cet endroit où ils venaient comploter le mal de leurs semblables, la fenêtre d'en haut était occupée par deux vertueux jeunes gens qui, semblables à deux bons esprits, allaient s'efforcer de détruire les effets pernicieux des projets ténébreux d'Afra et de Corvinus et d'effacer le mal qu'ils voulaient faire. Tous deux maintenant ont disparu. L'un repose dans la tombe, l'autre dort paisiblement à la veille de son exécution. La mort nous apparaît ici comme une sainte puissante qui préfère la société des bons à celle des méchants. Elle arrache la fleur pleine de sève et de beauté et laisse grandir l'herbe inutile et dangereuse que la fin du jour verra tomber et flétrir dans sa maturité. Mais au moment où les deux personnages levèrent la tête, la fenêtre leur apparut occupée par deux hommes. « C'est Fulvius, » dit Corvinus, « il vient de se mettre à la fenêtre. » « Et l'autre homme et Eurota sont mauvais génies, » reprit l'esclave noir. De leur retraite obscure, ils regardèrent et écoutèrent sans être vus. Fulvius revint à la fenêtre à ce moment, portant à la main une épée. Il examina soigneusement la poignée à la lumière de la lune, puis la rejeta violemment à terre en s'écriant avec un blasphème « C'est du cuivre !» Eurotas vint à son tour, portant un riche ceinturon qui devait avoir appartenu à un officier supérieur, le regarda minutieusement, puis il s'écria « Ce sont des pierres fausses. Toute notre prise ne vaut pas 50 livres. Fulvius, vous avez fait là une bien mauvaise affaire. » « Toujours des reproches, Eurotas, et cependant, ce gain misérable a coûté la vie d'un des officiers les plus favorisés de l'empereur. » Et sans doute, votre maître ne vous en saura aucune obligation. » Eurotas avait raison. Le lendemain matin, les esclaves qui reçurent le corps de Sébastien furent très surpris quand une femme au teint noir passa près d'eux et leur dit tout bas « Il vit encore !» Au lieu de transporter le martyr pour l'ensevelir aux catacombes, on le porta dans l'appartement d'Irène. L'empereur était parti la veille au soir dans son palais de Latran, et l'heure matinale facilita cette mesure. On envoya chercher de suite Dionysus. Il déclara qu'aucune blessure n'était mortelle, pas une flèche n'avait atteint les parties vitales du corps. Mais la perte de sang causait une faiblesse extrême et des semaines devaient se passer avant que le patient pût remuer. Pendant 24 heures, Afra vint presque à chaque heure savoir des nouvelles de Sébastien. Quand le terme fixé fut arrivé, elle conduisit Fabiola à l'appartement d'Irène afin que la patricienne pût s'assurer que Sébastien respirait encore. C'était seulement à sa faible respiration qu'on pouvait reconnaître que la vie ne l'avait pas entièrement abandonnée. L'esclave fut affranchie, elle reçut sa dot et tout le palatin et le forum retentirent des chants hideux et des rites monstrueux des orgies nuptiales. Fabiola s'enquit de Sébastien avec une si tendre sollicitude qu'Irène la prit pour une chrétienne. À ses premières visites, elle se contenta de demander des nouvelles à la porte et de déposer dans les mains de l'hôtesse de Sébastien une large somme destinée à couvrir les dépenses de sa maladie. Mais après 2 ou 3 jours, quand le tribun fut un peu moins faible, on invita la jeune patricienne à entrer et, pour la première fois, elle se trouva sciemment au sein d'une famille chrétienne. Irène, nous dit l'histoire, était veuve de Custulus, un chrétien converti de la bande de Chromatius. Son mari avait souffert la mort, mais elle restait encore inaperçue dans l'appartement occupé naguère par lui. Elle vivait avec ses deux filles, et une différence marquée dans leur conduite frappa Fabiola quand elle se familiarisa avec elle. Une des jeunes filles considérait Sébastien comme un intrus dans la maison Elle évitait de s'approcher de lui et lui parlait rarement. Elle était brusque et hautaine avec sa mère, elle partageait les idées du monde et se montrait égoïste, légère et hardie. L'autre fille d'Irène, qui était la plus jeune, formait un contraste frappant avec sa sœur. Elle se montrait douce, docile et aimante, bonne et attentive près du pauvre malade. Irène était un type parfait de la matrone chrétienne dans la classe moyenne de la société. Fabiola ne trouva en elle ni une haute intelligence, une grande instruction, ni un esprit brillant ou des manières bien distinguées, mais toujours, elle la voyait calme, active, bonne et honnête. Elle était généreuse, dévouée et d'une patience à toute épreuve. La jeune patricienne n'avait jamais vu un intérieur si simple, si frugal et si bien ordonné. Une seule chose la choquait dans cette maison modèle, c'était le caractère de l'aînée des deux sœurs. Après quelques jours, elles apprirent que leur visiteuse de tous les jours n'était pas chrétienne, elles ne l'en reçurent pas moins bien. Fabiola fit à son tour une découverte qui l'humilia, c'est que l'aînée des jeunes filles était restée païenne. Tout ce qu'elle voyait autour d'elle diminuait ses préventions contre les chrétiens et adoucissait son esprit altier. Mais, à présent, ses pensées étaient toutes portées vers Sébastien, dont la convalescence lui paraissait bien lente. Elle forma avec Irène le projet de le transporter dans sa villa de Campanie, où elle aurait le loisir de s'entretenir avec lui sur la religion. Un obstacle insurmontable devait s'élever entre elle et ce projet. Nous n'essaierons pas d'initier notre lecteur aux sentiments de Sébastien. Après avoir souhaité le martyr et élevé vers le ciel ses plus ardentes prières pour l'obtenir, avoir souffert toutes les tortures, être mort, pour ainsi dire, aux yeux des hommes en perdant la vue de ce monde en même temps que la vie, se sentir réveillé maintenant, non comme un martyr qui se trouve au ciel, mais comme un voyageur dont les épreuves vont recommencer et dont le salut n'est pas assuré, n'est-ce pas là une plus grande souffrance que le martyr lui-même ? Sébastien était semblable à un homme qui, dans le milieu d'une nuit orageuse, essaierait de traverser une rivière au courant rapide ou un bras de mer un jour de tempête sur une légère nacelle et qui, après avoir lutté pendant des heures d'angoisse et avoir dirigé son esquif en tous les sens, se retrouverait sur le même banc de sable où il s'est embarqué. Il était comme saint Paul revenant sur la terre pour recevoir les soufflets de Satan lorsqu'il venait d'entendre les mots mystérieux que l'intelligence suprême peut seule proférer. Cependant, aucun murmure, aucun regret n'échappait à l'héroïque soldat. Il adorait en silence la volonté divine en pensant qu'elle avait voulu seulement lui donner le mérite d'un double martyr. Il soupirait ardemment après cette seconde couronne qu'il refusa toute proposition de fuir ou de se cacher. « J'ai gagné à présent, dit-il généreusement, le privilège d'un martyr, celui de parler hardiment aux persécuteurs. Je veux user de mon droit le premier jour où je pourrai quitter mon lit. Soignez-moi donc bien afin que ce jour se lève le plus tôt possible. »